Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
L'actualité économique au cœur de l'actualité, fonction publique, pouvoir d'achat, panique boursière, un avis de tempête sur l'économie. Pour en parler, je suis en compagnie d'Henri Sterdignac, vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE. Et puis j'accueille, ou plutôt nous sommes en ligne avec une naufragée de la route, Jézabel Coupé-Soubéran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférence à Paris 1 Panthéon, Sorbonne, conseillère éditoriale au CEPI. Frédéric Seize, dans son billet politique, vient d'évoquer la manière dont le 80 km/h sur les routes pourrait avoir des conséquences sur la popularité d'Emmanuel Macron et plus largement sur la manière dont les élections se sont déroulées. Par exemple, ce week-end, les législatives partielles. Il y a également une autre explication qui est fournie par Laurent Wauquiez. On l'écoute, c'était hier au micro de RMC.
Il faut qu'Emmanuel Macron écoute ce que disent les Français et comprennent ce qu'est aujourd'hui leur vie quotidienne. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il ne le comprend pas et qu'il sous-estime les questions de pouvoir d'achat. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le discours de personnes toutes simples qui disaient « Mais nous, dans ce début d'année, tout augmente. Tout augmente. Avec les mesures du gouvernement, on a la CSG qui augmente, on a l'essence qui augmente, on a le fioul qui augmente, le timbre, le tabac, tout augmente. »
Et effectivement, ce matin, dans vos journaux, il est question de la perte du pouvoir d'achat qui aurait été visible sur les fiches de paye. Votre point de vue à ce sujet, Jézabel Coupé-Soubéran?
Écoutez, il est clair que les anticipations d'inflation sont au cœur en fait hein, de la panique actuelle là, sur les marchés financiers, du moins du mouvement de correction qui s'opère. Toute la question, c'est quand même de savoir si cette inflation qui commence à redémarrer un peu va véritablement perdurer. Est-ce que c'est un mouvement durable qui arrive, ou bien est-ce que c'est simplement une petite secousse? Donc on pourra y revenir, parce qu'il me semble, si vous voulez, que les explications actuelles hein, qui consistent à voir une accélération durable de l'inflation s'appuient peut-être sur des schémas qui sont, me semble-t-il, un peu dépassés.
Alors attendez, parce qu'il y a différentes choses à cet égard. Le journal Libération publie ce matin différents profils de contribuables. Donc, il y a la question de l'inflation, sur laquelle vous allez réagir, Henri Sterdignac. Et puis, il y a aussi la question donc du transfert des cotisations sociales. Et alors, par exemple, pour un couple de retraités qui habiterait en région, nous dit Libération, avec un revenu mensuel du foyer assez confortable de 5000 euros par mois, eh bien, il y aurait une perte annuelle de 1050 euros qui serait donc attendu pour cette année. Et il y aurait pour un célibataire gagnant 1150 euros par mois, il y aurait une perte également de pouvoir d'achat qui serait chiffrable aux environs de 500 euros par an. Donc on a apparemment, du fait donc de la nouvelle fiscalité, une diminution sensible du pouvoir d'achat. Votre point de vue à ce sujet, Henri Sterdignac?
Mais il n'y a pas de miracle, hein. Je veux dire, il y a un choix de politique économique assumé par le gouvernement qui est de s'en prendre au pouvoir d'achat des retraités. Donc, la masse des retraités va perdre, grosso modo, 2% de pouvoir d'achat. Ils s'en sont aperçus juste ce mois-ci. Certains ont eu des surprises parce qu'ils pensaient que ça s'appliquait pas à eux, parce qu'ils avaient une petite retraite. Mais comme on tient compte du revenu fiscal de référence, si vous êtes marié, on fait le total de vos revenus. Donc beaucoup de retraités ont eu ce choc. Les fonctionnaires ont eu des pertes de pouvoir d'achat parce que les cotisations retraite des fonctionnaires et les cotisations aux mutuelles ont augmenté, et on a une poussée spécifique de l'inflation en France liée à la hausse du prix de l'énergie et à la hausse du prix du tabac. Et les mesures compensatrices dont parle le gouvernement, que ce soit la baisse de la taxe d'habitation ou le fait que on va réduire les impôts des plus riches, de toute façon, ça va arriver en fin d'année. Et donc, actuellement, on a un trimestre dans lequel, selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des ménages va baisser de 0,4%. Et ce qui aggrave la situation, si on peut dire, c'est que cette poussée de l'inflation va se traduire par des baisses de pouvoir d'achat des retraités, dans la mesure où les retraites et une grande partie des prestations ne sont plus indexées. Et donc, effectivement, il y a une partie importante de la population qui est victime.
Frédéric Seyz.
Oui, politiquement, il y a une question également de ressenti. Cette question du pouvoir d'achat est à chaque campagne très importante. On s'aperçoit que parmi les mesures qui avaient été le plus retenues, qui avaient le plus imprimé, comme l'on dit maintenant de manière impropre chez Emmanuel Macron, chez les Français, il y avait la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. C'était vraiment loin devant toutes les autres mesures qui étaient proposées. Celle-ci avait été bien retenue et effectivement, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit faite en plusieurs tranches, qu'elle soit délayée dans le temps comme ça va se passer. Il y a aussi effectivement les taxes qui augmentent, l'essence et beaucoup d'autres choses qui font que ce pouvoir d'achat est grevé. Les cigarettes. Et puis on entend parler aussi de désindexation du SMIC. C'est une petite musique comme ça qui entre en ligne de compte. Le gouvernement dit qu'il voudrait calculer de manière différente le SMIC. Tout ça crée une forme d'angoisse par rapport au pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs le moment que le gouvernement vient de choisir pour annoncer qu'il y aurait une désocialisation des heures supplémentaires. Désocialisation, ça veut dire qu'on supprime les cotisations sociales et patronales sur les heures supplémentaires. Et pour la première fois, le gouvernement vient de dire que ce sera fait sur le budget de 2020. Il sent bien qu'il y a une forme de panique qui gagne, y compris les députés de La République En Marche.
Donc ça, c'est explicitement une réponse à cette crainte et à ce discours qui a débuté sur la perte du pouvoir d'achat des Français. Cette désocialisation, elle est effectivement annoncée. Elle est annoncée pour plus tard, comme vous venez de le dire, Frédéric Seyz. Et il y a effectivement toute une série de décalages qui rend cette fiscalité peu lisible. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres que j'ai sous les yeux, parce qu'il y a quand même certains ménages qui vont gagner à cette réforme. Par exemple, si vous êtes fonctionnaire avec un enfant en région, si vous avez un véhicule diesel et que vous fumez 5 cigarettes par jour, dans Libération, on est précis ce matin, eh bien, vous gagnerez 121 € de pouvoir d'achat avec un revenu mensuel du foyer de 3 300 €. Jésabelle Coupé-Soubéran, on le voit, c'est quand même très difficile d'avoir un discours unique sur la question du pouvoir d'achat, mais sur le moyen terme, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une question donc de pouvoir d'achat insuffisant en France pour les salariés ?
Mais, si vous voulez, ce qui est inquiétant, effectivement, c'est que la croissance repart un peu, hein, en zone euro, enfin, tardivement. On pourrait s'en réjouir. Le problème, c'est que les fruits de cette croissance qui repart sont toujours aussi mal partagés. Et les salariés ne sont pas ou ne sont plus les gagnants d'une reprise économique. Donc je crois que c'est tout là le problème. Ça renvoie à des modèles économiques qui ne font plus du tout, si vous voulez, la part belle aux salariés. Donc effectivement, beaucoup peuvent avoir le sentiment d'être finalement toujours perdant, même lorsque la croissance accélère. Et vous voyez, pour revenir sur la question de l'inflation, ce qui aujourd'hui fonde la croyance ou l'idée que l'inflation va repartir, c'est que la situation sur le marché de l'emploi commence à s'améliorer. Elle s'est beaucoup améliorée aux États-Unis, elle s'améliore un peu aussi en zone euro et en France. Et partant de là, eh bien, on imagine que cette situation d'embellie sur le marché de l'emploi va se traduire par des augmentations de salaire. Mais pour qui les augmentations de salaire? Pour les 1%, pour les 1% les mieux payés, peut-être, mais pour tous les autres, certainement pas. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, au fond, cette embellie sur le marché de l'emploi ne peut pas se traduire durablement par une augmentation de l'inflation. Donc voilà, ça explique aussi en partie ce lien un peu cassé entre l'inflation et le chômage, hein. C'est-à-dire que quand normalement le chômage diminue, il y a des augmentations de salaire et puis une accélération de l'inflation et inversement. Bien là, vraisemblablement, c'est pas du tout ce qu'on va observer.
Il n'y a pas d'inflation salariale en France. Il y a une poussée des prix qui est extrêmement liée au fait qu'on va augmenter les taxes sur l'énergie, sur sur le tabac et que ça va faire une poussée temporaire de l'inflation, donc une perte temporaire de pouvoir d'achat.
Et mais alors, au-delà de cette question qui est donc liée aux dernières taxes que l'on a évoquées, Henri Sterdyniak, est-ce que sur la période donc de ces 10 dernières années, le partage entre la création de richesses pour les actionnaires, pour le capital, et la manière dont celle-ci a été redistribuée aux salariés, est-ce que cela s'est fait au détriment des salariés? Donc, est-ce qu'on a effectivement un problème de pouvoir d'achat en France?
On a, comme vous savez, on n'est pas sorti de l'effet de la crise de 2007-2008. Et depuis cette période, on a une croissance de la productivité qui est relativement faible, 0,8%, et on a une croissance des salaires qui est à peu près à ce niveau-là. Donc il n'y a pas eu de forte dégradation de la part des salaires dans la valeur ajoutée en France. On est dans une situation médiane. Les profits ont été rétablis grâce au CICE et au pacte de responsabilité. Le problème, c'est que on reste avec une croissance de la productivité très faible. On reste avec un déficit d'emploi extrêmement important. Et ça pèse énormément sur le pouvoir d'achat des ménages. Il nous manque quand même 4% d'emploi par rapport à la tendance et à peu près autant en raison du ralentissement de la productivité. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que on s'arrange dans la zone euro pour dire, ben, grosso modo, maintenant, les salaires doivent augmenter comme la productivité et un peu plus en Allemagne et un peu moins dans les pays qui ont difficulté? Ou est-ce que on se lance tous dans de la dévaluation interne compétitive en disant, ben, chacun doit essayer de gagner de la compétitivité en faisant pression sur les salaires. Et c'est ça le risque aujourd'hui.
Jézabelle Soubeyran, une réaction par rapport à ça et par rapport au thème que l'on évoquait tout à l'heure. Édouard Philippe a expliqué qu'il fallait avoir recours dans la fonction publique aux contractuels. On a vu qu'il y avait une volonté de diminuer le nombre de fonctionnaires. Or, justement, l'une des spécificités françaises, c'est que le salaire moyen dans la fonction publique est plus élevé aujourd'hui que dans le privé. Alors là aussi, sans assommer nos amis auditeurs avec des chiffres, on est aujourd'hui à un salaire moyen dans la fonction publique de 2200 euros, ce qui est supérieur de pratiquement 500 euros au salaire du privé. Votre réaction par rapport à cela?
Ma réaction, si vous voulez, c'est que il y a toujours un dénigrement intolérable au fond des services publics, hein, qui sont systématiquement perçus comme une charge, comme un coût, et sans jamais considérer l'atout que ça constitue pour la collectivité et l'atout que ça constitue aussi pour l'environnement des entreprises, pour la productivité des entreprises et pour la croissance. Donc je pense qu'à systématiquement considérer les services publics comme une charge et non pas comme un facteur important de la croissance, eh bien on n'a pas du tout, si vous voulez, la bonne paire de lunettes.
On accrédite un préjugé selon vous, mais le fait justement de faire appel à des contractuels, n'est-ce pas aussi une manière de pratiquer la modération salariale dans la fonction publique et donc de faire en sorte finalement que ce pouvoir d'achat des fonctionnaires soit un peu plus restreint au moment même où certains disent que la France a un problème de pouvoir d'achat?
Bon, je pense que le fait de faire appel plus systématiquement à des contractuels, ça se traduit tout simplement par une précarisation de plus en plus grande de la fonction publique. Ça introduit d'une certaine manière une certaine flexibilité, mais pour autant, je pense que c'est pas la façon de garantir une bonne production de services publics, qui, encore une fois, sont absolument essentiels à l'environnement des entreprises et à la croissance.
Henri Sterdyniak.
Le problème des contractuels, c'est que ça permet de payer moins cher en bas de l'échelle et que ça amène à payer plus cher en haut de l'échelle et que ça change complètement, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens soient affectés suivant les besoins, ça devient de la concurrence. Si vous regardez par exemple le cas des professeurs d'université, les contractuels, ça veut dire qu'on va faire venir à prix d'or éventuellement des scientifiques, des professeurs, et qu'on va payer beaucoup plus cher dans certaines universités qui ont les moyens, les professeurs, au lieu d'avoir un système dans lequel plus égalitaire, dans lequel les professeurs sont répartis selon les besoins. Et c'est préoccupant.
Mais ça, c'est déjà le cas, parce que...
C'est déjà le cas, oui, bien sûr.
Les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais en fait, comme il y a aujourd'hui un certain nombre de fonctionnaires qui ont été apportés à la fonction publique territoriale, si je puis m'exprimer ainsi, il y a aujourd'hui un décalage de plus en plus grand entre la fonction publique d'État, avec une moyenne des salaires à 2500 euros, tandis que la fonction publique territoriale est à 300 euros en dessous. Donc, le phénomène que vous décrivez en Henri Sterdyniak, il est finalement à l'œuvre et on peut imaginer que ce phénomène va se poursuivre.
Oui, mais d'abord, il faut bien voir que les fonctions sont pas les mêmes. Dans la fonction publique territoriale, on a beaucoup d'agents de catégorie B ou C, alors que dans la fonction d'État, on a beaucoup d'enseignants qui sont de catégorie A. Et donc, il est assez, c'est pas les mêmes. Le problème, c'est que les contractuels, c'est pas forcément moins cher pour un certain niveau de la hiérarchie. Effectivement, le programme qu'a présenté le ministre, c'est pas nouveau, c'est des choses qui traînent depuis une dizaine d'années et qu'on redécouvre. Par exemple, on nous a dit une idée géniale, c'est qu'on va pouvoir faire des plans de départ volontaires dans la fonction publique. Ça existe déjà depuis 10 ans. Il y a 10 ans, la loi a été votée et il y a eu 12 personnes qui en ont profité. Donc, c'est pas nouveau. L'idée qu'on va faciliter le passage public-privé, ça existe déjà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron déjà qui en a profité. Et le risque, c'est que quand ça se passe pour des hauts niveaux de la hiérarchie, ça décrédibilise complètement, ça affaiblit la haute fonction publique parce qu'ils perdent le sens de l'État. Et c'est là aussi, c'est préoccupant. Donc, c'est pas nouveau, c'est la poursuite d'une dégradation, si on peut dire, de la morale de la haute fonction publique.
Mais alors, cela, Jézabel Coupet-Soubeyran, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé par les économistes, pas tous les économistes, mais enfin ceux qui considèrent que la France doit augmenter sa compétitivité et donc moins peser sur les entreprises et faire en sorte que les charges liées à la fonction publique, liées donc à tout ce secteur public, soient amenuisées.
Oui, mais je pense que c'est un défaut d'analyse. Si vous voulez, la compétitivité des entreprises, elle nécessite d'avoir des gens bien formés, des gens bien soignés, d'avoir donc des systèmes éducatifs, des systèmes de santé, des dispositifs de redistribution aussi qui fonctionnent bien. Donc opposer, si vous voulez, les services publics à la compétitivité des entreprises et systématiquement mettre l'accent sur la charge que constitue la dette publique, je pense que c'est vraiment une vision largement dépassée. On a besoin de dépenses publiques pour bien faire fonctionner l'économie d'un pays. Voilà, l'économie d'un pays, ça fonctionne autant sur la base de dépenses publiques que sur la base de dépenses privées.
Ce sont
des moteurs qui sont tout à fait complémentaires. Or, souvent, on a une vision binaire, on a une vision antinomique, on ne parvient pas suffisamment, je crois, à saisir la complémentarité entre ce moteur public et le moteur privé. Il faut cesser d'opposer les deux.
Troisième thème qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité économique, la panique boursière qui a eu lieu aux États-Unis il y a 2 jours, qui a eu lieu dans une moindre mesure à Paris hier, et là aussi des analyses notamment sur le rôle des banques centrales, puisque ce qui aurait provoqué ce phénomène, Henri Sterdyniak, je vais vous demander votre avis, ce qui aurait provoqué ce phénomène, c'est avant tout une remontée des taux, autrement dit une fin de ce qu'on a appelé l'argent facile. Votre analyse à ce sujet ?
D'abord, il est normal que la situation un jour se normalise. Hein, les taux d'intérêt à long terme très inférieurs au taux de croissance, c'est pas possible durablement. Hein. Dans la zone euro, on a des taux à 10 ans à 1%, alors que normalement, logiquement, petit à petit, ça doit tendre vers les 3%. Et normalement, les agents financiers doivent être préparés à cette évolution. Et par ailleurs, comme vous savez, les marchés financiers sont pas des marchés rationnels. Ils fonctionnent en permanence avec des bulles, avec des phases d'enthousiasme et des cracks. Tout le monde savait que les taux, que les bourses avaient trop monté. Tout le monde s'attendait à ce qu'elles chutent et c'est arrivé par hasard. Hier, la semaine dernière, c'est un mouvement de correction qui est tout à fait normal. Les États-Unis vont mieux. Il va y avoir une hausse des taux d'intérêt dans la zone euro aussi, et c'est pas tragique. Hein. Ça fait partie malheureusement du jeu. Hein. Il y a les bitcoins qui s'amusent, il y a les bourses qui s'amusent pareil. La question c'est comment éviter que ces jeux aillent perturber l'économie réelle.
Gisabelle Coupé-Soubéran, votre point de vue.
Oui, alors si vous me permettez une analogie un petit peu facile, vous avez peut-être quelques auditeurs encore là qui sont dans une situation de demi-sommeil. Eh bien, c'était un peu la situation sur les marchés en fait. Il y a encore peu de temps, c'est-à-dire que les marchés étaient dans une sorte de bulle de sommeil, mais assez particulière, une situation au fond de douce euphorie parce que la volatilité était très faible, c'est-à-dire que les prix, les valeurs de marché variaient très peu, mais elles étaient à un niveau très très élevé. D'accord. Donc on avait des niveaux de survalorisation très importants sur les marchés d'actions, sur les marchés d'obligations. Donc sur les marchés d'actions, si vous voulez, les indicateurs dont on dispose pour évaluer cette survalorisation, eh bien montraient qu'on était à un niveau proche de celui à la veille de la crise de 29. D'accord. Donc de très fortes survalorisations sur les marchés d'actions. Et sur les marchés d'obligations, eh bien les achats d'actifs effectués par les banques centrales dans le cadre du fameux quantitative easing ont...
Quantitative easing, il va falloir définir ce que c'est, Gisabelle Coupé-Soubéran.
Face à la crise, si vous voulez, les banques centrales ont été extrêmement extrêmement actives et une partie de leur politique de gestion de crise a consisté à acheter massivement des titres sur les marchés, notamment des titres de dette public, des titres obligataires, d'accord. Et donc en achetant, si vous voulez, ces prix, eh bien, elles ont largement soutenu le prix, d'accord, de ces titres. Donc tout ça pour dire que on avait, si vous voulez, des prix très élevés hein, sur ces marchés, sans qu'il y ait du tout de volatilité. Donc on avait vraiment des marchés un peu léthargiques, mais avec des niveaux de valorisation très très élevés. Et là, eh bien, c'est le réveil. D'accord. Et qu'est-ce qui réveille les marchés? Ce qui réveille les marchés, c'est la crainte que les taux d'intérêt ne remontent trop vite. Alors, pourquoi est-ce que c'est embêtant quand les taux d'intérêt remontent et qu'on est, si vous voulez, dans une situation de bulle? Parce que, au fond, une hausse de taux d'intérêt, quand on est dans une situation où on a des bulles de prix d'actifs, c'est comme une sorte de coup d'aiguille. Et donc, ça fait exploser les bulles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le taux d'intérêt augmente, eh bien, tous les titres de dette anciennement émis à un taux d'intérêt plus faible ne valent plus grand-chose, en tout cas intéressent moins les investisseurs. Donc, leur prix baisse, en tout cas les investisseurs veulent s'en débarrasser, et en voulant s'en débarrasser en les vendant, eh bien, ils autoréalisent la baisse de ce prix. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette... Pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte d'une remontée forte du taux d'intérêt? C'est très lié au fond à la vigueur, entre guillemets, et voire même la situation de surchauffe de l'économie américaine, à la reprise qu'on observe aussi en zone euro. Il faut dire que la politique de Donald Trump n'arrange rien à cette situation, parce que c'est une politique en fait qui accentue la tendance du cycle. C'est une politique très pro-cyclique, avec des dispositions fiscales et budgétaires qui vont, si vous voulez, plutôt accentuer cette situation.
Cette tendance que vous observez. Merci beaucoup, Jezabel Coupé-Soubéran, de nous avoir exposé votre point de vue sur ce moment économique. Henri Sterdignac, merci également à vous pour vos analyses.